Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, ma complice de toujours, Tiphaine, et votre serviteur, André Satenza. Aujourd'hui, parmi nous, Jean-Philippe Toutu, docteur en psychologie sociale, enseignant à la prestigieuse université Jean Jaurès. Il est dirigeant d'un cabinet de conseil dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Et il vient tout juste de publier un ouvrage tout chaud d'ailleurs, « La qualité de vie au travail, une démarche pour le secteur social, médico-social et sanitaire ». C'est une démarche, c'est une méthode, un travail intense avec les parties prenantes. Jean-Philippe, c'est la deuxième fois que vous venez à Esprit Occitanie, donc très actif, un intellectuel du secteur. Cet ouvrage, La qualité de vie au travail, démarre de façon originale. Vous citez un haut responsable de la santé qui vous dit « La qualité de vie au travail, c'est un oxymore ». Est-ce que vous partagez cela ?
D'abord, merci de votre invitation, Andrés. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de rencontrer Esprit Occitanie. C'est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction interne qui est relevée par un haut fonctionnaire qui, en principe, devrait se préoccuper tout autant de la qualité des soins et des accompagnements que de la qualité de vie des personnels qui travaillent dans ces institutions. J'ai voulu le noter en préambule pour de suite, immédiatement, mettre l'accent sur le fait que ne sont pas irréconciliables ces objectifs de la qualité de ce que l'on produit comme service ou accompagnement et la qualité de ce que l'on vit au quotidien dans son travail en termes d'épanouissement et de bien-être.
Alors pourquoi ce décalage ? Pourquoi un haut responsable, mais ça aurait pu être également un directeur ou un dirigeant d'association, pourquoi cette difficulté sur ce concept, me semble-t-il, majeur dans le secteur, au moment où nous parlons de difficultés au travail, où nous parlons d'attractivité de métier, ça pose un problème. La qualité de vie au travail peut être un outil, peut-être, pour attirer les meilleurs talents dans une institution.
Oui, je crois que l'ambiguïté et la difficulté, elle tient à la définition que l'on donne du travail lui-même et qui est inscrite, cette définition, dans une culture ancienne qui nous contraint. Nous avons globalement du travail une image dégradée, une image d'effort, de difficulté, de souffrance. Le travail, par définition, doit être quelque chose qui nous fait souffrir. On le tient de la Bible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et également, l'origine latine du mot travail, qui se réfère à un instrument de torture.
Tripalium.
Le tripalium, qui était ce croisillon de bois sur lequel on clouait les personnes que l'on voulait faire avouer tout et n'importe quoi, et que l'on travaillait avec des instruments de torture. Donc le travail est quelque chose qui doit faire souffrir, qui doit faire mal. Alors parler de bien-être et d'épanouissement par le travail, ça constitue un paradoxe. Ça vient heurter une culture et une représentation du travail. C'est ça qu'il faut faire évoluer d'abord et avant tout par la QVT.
Alors si nous abordons ce concept, d'abord il n'est pas nouveau, il n'est pas revisité, pourrait-on dire. Si on faisait un peu d'histoire, ou faisons un peu d'histoire, cheminons, un accord interprofessionnel, 17 mars 1975, pourrait-on dire c'est le top départ de cette prise de conscience de la qualité de vie au travail. Accord interprofessionnel pour l'ensemble de toutes les branches dans notre pays.
Alors, oui, l'histoire de la QVT remonte très loin. Moi, j'en ai trouvé des traces dans les anciens manuscrits des Sumériens, il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, qui déjà se posait la question de savoir comment faire pour que les travailleurs travaillent bien et soient heureux de travailler. C'est quasiment la traduction que l'on a de rouleau sumérien de l'époque. Donc la QVT est une préoccupation inhérente au management. Alors il faut remonter à travers différentes péripéties jusqu'au 19 juin 2013 pour avoir un accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. C'est le texte fondateur en France de la QVT. Néanmoins, on peut situer dans les années 50 l'apparition du terme QVT, la réapparition du terme QVT, sa traduction notionnelle, sa définition intégrale, que l'on doit au Tavistock Institute of London dans les années 50, par des sociologues anglais qui ont revisité cette démarche en opposition, en contradiction, et c'est bon de le souligner, avec toute la démarche taylorienne du début du XXe siècle.
Il y a également un auteur, un sociologue, un penseur qui a beaucoup apporté, me semble-t-il, Jean-Philippe Toutu, c'est Christophe Dejour, qui a beaucoup apporté au secteur sur cette question de la qualité de vie au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de l'apport de cet intellectuel dans le secteur ?
Oui, c'est un apport majeur. Christophe est un psychopathologue du travail qui a très tôt...
On le situe dans les années 2000, quoi. C'est
dans
un
les
apport
années 2000,
dans les années 2000.
Ça veut dire 20 ans. Oui, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, oui. Et qui a consacré plusieurs ouvrages aux méfaits et aux bienfaits du travail dans l'interaction entre les psychopathologies individuelles et les circonstances psychosociales.
Vous avez bien dit les bienfaits et les méfaits.
Oui.
Il y a du bienfait à travailler, on peut le dire.
Alors oui, c'est...
Ou à bien travailler et un plaisir peut-être à travailler.
Oui, l'auteur Yves Clos, qui était précédemment le directeur du CNAM à Paris, Arts et Métiers, titulaire de la chaire de psychosociologie, et l'auteur d'un livre en 2010, un livre fondamental, sur la fin des RPS, des risques psychosociaux, il mettait en évidence cet ouvrage, l'intérêt qu'il y a de bien travailler pour l'équilibre psychique des salariés. Il disait même que la qualité du travail produit était le chaînon manquant entre la santé des travailleurs et la qualité des biens et services produits.
Monsieur Christophe Dejour évoque et parle dans ses ouvrages de la clinique sociale. Est-ce qu'on peut repréciser ce que cela veut dire ? Parce que clinique, on voit bien, social, je vois bien, mais cet ajout et ce mélange, cette juxtaposition de clinique sociale, c'est quoi cette démarche de Christophe Dejour ?
Alors c'est une démarche certes qui peut paraître originale dans la littérature classique de la psychologie qui distingue l'approche clinique qui est l'approche du sujet et par suite de son inconscient avec l'approche sociale qui est l'approche des interactions et des stratégies individuelles. Donc parler d'approche clinique sociale, c'est relier deux axes. L'un vertical, qui est l'axe de la psychologie des profondeurs, des motivations profondes des individus, avec l'axe horizontal, qui est celui des comportements déployés dans les systèmes en interaction avec les autres. Donc la clinique sociale est une approche qui prend en compte à la fois l'individu dans son rapport profond, intime vis-à-vis des autres, et l'individu en tant qu'acteur et stratège de comportement au sein du système.
Dans ce sens, clinico-social, démarche qui marque bien une connaissance accrue, aiguisée des acteurs au travail, en tout cas dans les organisations. C'est cela qui est important, de comprendre comment les acteurs vont se comporter
voilà.
Et comment dans ce comportement peut produire de la satisfaction.
Voilà.
C'est bien cela.
Tout à fait. C'est tout le travail du CNAM,
va dans ce sens.
Avec l'école de Yves Clos, qui a inventé le terme de clinique sociale, est au confluent, en fait, des travaux de la psychopathologie, de la clinique profonde, avec les apports de la psychosociologie, des interactions et des stratégies d'acteurs.
Dans votre livre, vous tentez quelques définitions de la qualité de vie au travail. Vous dites ce qui est, ce qui n'est pas, mais je vous livre quelques-uns et je vous cite. Bien-être au travail, est-ce que la qualité de vie au travail, c'est le bien-être au travail ? Mais vous dites aussi la satisfaction au travail, le plaisir au travail. la santé au travail et le bonheur au travail. Est-ce que c'est ce mélange? Est-ce que c'est une approche? Est-ce qu'il faut choisir dans les termes que vous venez d'employer? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Si oui, laquelle? Parce que tous ces termes, on les utilise. Est-ce que tout cela, c'est la qualité de vie au travail ou il y a bien des différences?
Non, il y a... Quand on veut avoir un regard technique approfondi, bien sûr qu'il y a des différences et il ne faut pas se tromper. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Alors, je veux distinguer absolument ce qui est de l'ordre du bien-être, de ce qui est de l'ordre de la satisfaction, qui résulte d'une pulsion ponctuelle, de ce qui est de l'ordre du bonheur, qui est un état subjectif lié aux interactions sociales. Non, le bien-être est quelque chose de profond qui mêle à la fois les satisfactions de la personne, la satisfaction physique et le bien-être physique, et les interactions sociales avec son entourage. Mais la QVT n'est pas la recherche du bien-être au travail, c'est la recherche du bien-être et de l'efficacité. S'il y a bien-être sans efficacité, à terme, ça va se dégrader. S'il y a recherche d'efficacité sans se préoccuper du bien-être, à terme, ça va se dégrader. Donc la QVT est réaliste et humaniste en même temps. On cherche le bien-être et la qualité de l'efficacité de la production.
Dans la page 33 de votre ouvrage, vous dites ce qu'est la qualité de vie au travail, ce qu'elle n'est pas, et vous le reprécisez, tableau synthétique. La qualité de vie au travail, ce n'est pas une recherche de confort, ce n'est pas une forme de politique sociale, ce n'est pas une démarche de qualité de plus, ce n'est pas du marketing, pourrait-on dire, ou ce n'est pas verdir, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, il faut verdir nos pratiques écologiques, donc vous dites la qualité de vie au travail, ce n'est pas cela, hein, vous n'allez pas simplement améliorer. Et je continue, la démarche qui fabrique pour les salariés, loin des intérêts économiques de l'établissement, une réponse aux indicateurs, etc. Vous faites donc par élimination, et vous me dites après, en fait, c'est une proposition de bon travail. Qu'est-ce que ça veut dire que le bon travail?
Alors, le bon travail bien fait.
Bien fait.
Et je rajoute dans une bonne ambiance. Le bon travail bien fait dans une bonne ambiance, ce sont des termes du préambule de l'accord national interprofessionnel de 2013. C'est très important parce que, loin de considérer la subjectivité comme un obstacle à la création collective, on considère que la façon dont le sujet vit le bon travail bien fait dans une bonne ambiance, c'est la façon dont il le vit, est contributif d'une bonne qualité du système dans lequel chacun va se sentir bien. Donc le point de départ de la QVT, c'est d'abord comment chaque individu, comment chaque salarié, chaque acteur dans le système vit le travail qu'il effectue dans son système. On ne peut pas avoir un point de départ qui soit extérieur comme un référentiel. C'est pour ça que la QVT n'est pas une démarche qualité. Il n'y a pas de référentiel. Le point de départ, il est à l'intérieur du système, dans l'interaction que les acteurs ont avec les organisations.
Si ce n'est pas une démarche de qualité, est-ce qu'on peut dire que c'est une démarche de progrès pour l'institution?
C'est beaucoup plus exact. C'est en effet une démarche qui vise à transformer l'organisation et à transformer le rapport au travail de telle façon que les salariés s'y sentent mieux, aient un meilleur bien-être et que leur production soit plus efficace et plus efficiente.
Y compris quand on appelle une production dans le service, c'est-à-dire une prestation de service.
Bien
la
sûr.
Qualité de la prestation de service, et notamment dans le secteur social, médico-social et sanitaire. On est bien dans les métiers de l'humain.
Oui, oui.
Et dans le métier de l'humain, vous dites la qualité de vie au travail, ça se travaille aussi, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Lorsque je parle de production, je parle de production de soins, de production d'accompagnement, de production de relations. On me pardonnera un peu ce terme un peu trivial, mais le résultat de l'activité de travail, c'est une production qui se traduit dans nos organisations par de l'accompagnement et du soin.
Vous employez un terme technique, et je le livre, et peut-être vous pouvez nous éclairer. C'est une démarche intégrative et non cumulative. Alors, quelle est la différence? Il faut nous éclairer, parce que ça devient complexe, hein, votre démarche.
Complexe, mais pas compliqué, justement. Un reproche que l'on entend quelquefois lorsqu'on accompagne des démarches QVT dans les établissements, c'est que c'est une démarche de plus qui vient venir alourdir le programme déjà très chargé de nos établissements, avec toutes les contraintes juridiques et réglementaires et autres. lorsqu'on met en œuvre une démarche QVT, on va chercher le pragmatisme. On va chercher à ne pas gaspiller son temps. Et donc, lorsque quelque chose marche bien, est déjà bien fait par une démarche de prévention des risques psychosociaux ou par une démarche qualité, on ne va pas redoubler ce travail-là. Lorsqu'il existe, par exemple, des comités de pilotage chargés de développer, d'améliorer la situation en regard des risques, eh bien, on va utiliser ce comité de pilotage pour étendre un petit peu ses fonctions à la QVT. On ne va pas refaire deux fois la même chose, mais la QVT va venir travailler sur ce qui peut être amélioré et qui n'est pas encore pris en charge dans une démarche de projet.
Dans ce sens, vous dites, c'est une démarche systémique.
Alors, la QVT...
Et pas paramétrique, comme on dirait aujourd'hui. Elle est systémique et pas paramétrique. Ce ne sont pas simplement quelques paramètres que vous allez aborder dans l'institution.
Je crois que c'est très bon de le souligner. Le terme systémique apparaît clairement dans l'un des articles de l'ANI 2013. La démarche ne peut pas être conçue en dehors d'une approche systémique. Oui, en effet, ça n'est pas une approche normative, ça n'est pas une approche qui se base sur des indicateurs préétablis qu'il faudrait améliorer. C'est une démarche d'enthousiasme collectif, de co-construction collective d'une nouvelle organisation, d'un nouveau rapport au travail.
D'ailleurs, vous le dites, c'est une démarche participative. La QVT est une démarche participative. Alors, comme démarche participative, vous êtes conseil, vous avez un cabinet. Quand les associations font appel à vous, à vos services ou les entreprises, vous leur dites qu'il faut passer par un accord d'entreprise pour que cela fonctionne, qu'il faut passer du temps dans une négociation qui soit équilibrée. Quel est le conseil que vous donneriez aux directeurs généraux et aux directeurs et directrices des établissements ?
Alors, il y a déjà un point très fort, c'est de s'entendre sur la définition du terme participatif, qui est souvent l'objet de confusion ou de malentendus. Une démarche qui consiste à prendre l'avis de ses collaborateurs pour ensuite décider est une belle démarche consultative. Ça n'a rien à voir avec le participatif. Ne mélangeons pas. Le participatif, c'est réunir autour d'une table un ensemble d'acteurs qui, ensemble, vont choisir la meilleure solution. Dans le tour de table, il y a le directeur. Mais le directeur accepte de ne pas être le décideur. Par contre, il lui revient la redoutable responsabilité de créer les conditions de la co-décision. Mais cette co-décision est le fruit d'échanges et de consensus dans lequel tout le monde doit sacrifier la recherche de la prérogative absolue, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les représentants du personnel ou que ce soit le management.
Dans les facteurs clés de succès d'une bonne démarche de la QVT, c'est un dialogue social aguerri. C'est les parties prenantes qui s'investissent pleinement. C'est un texte qui doit être abouti au regard de ce que dit la loi et bien entendu de l'accord international, de l'accord interprofessionnel de 2013. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu la loi Rexamen également qui amène quelque chose. Et ça amène quoi en plus sur la BDES, c'est-à-dire cette base de données. Tout cela doit être aujourd'hui inscrit dans cette base de données. Donc il y a une obligation de réussite pour les établissements.
Ah oui, l'armature réglementaire est en voie de consolidation, mais elle est déjà assez conséquente. Tout a démarré sur le plan réglementaire par l'ANI 2013, qui a été étendue ensuite en mars 2014, étendue à toutes les branches professionnelles. La loi Rebsamen du 17 août 2015, applicable en 2016, oblige à ce qu'il y ait une négociation annuelle obligatoire, vous savez,
sur cette thématique.
Sur un ensemble de thématiques qui composent la QVT. D'accord. En effet, 6 ou 7 thématiques obligatoires, plus d'autres thématiques qui relèvent de la QVT. C'est une avancée fondamentale, puisque toutes les structures de plus de 50 salariés sont obligées, chaque année, d'avoir une négociation sur la QVT. Mais il ne faut pas oublier, pour notre secteur, le référentiel de l'HAS, le référentiel de certification de l'HAS, d'évaluation externe,
De la Haute Autorité de la Santé,
valable pour les services sanitaires, pour les établissements sanitaires, comme pour les services sociaux et médico-sociaux, hein, qui depuis octobre 2020 pose comme objectif, l'objectif 3.5, comme objectif la mise en place d'une véritable démarche QVT. Donc cela veut dire que dans le courant de l'année 2022, les établissements seront obligés d'avoir mis en place une démarche QVT.
Alors vous qui êtes un connaisseur du secteur, vous intervenez régulièrement en Occitanie et aussi ailleurs comme conseil auprès des associations et des entreprises. Est-ce que le secteur dit médico-social à but non lucratif, qui est peut-être notre famille, sommes-nous en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce que nous freinons à ce changement? Et d'ailleurs, vous le dites à la fin de votre ouvrage, vous citez un présocratique Héraclite et vous citez Spinoza et également Machado disant « Tout change sauf nous, mais tout change ». Alors, où en sommes-nous?
Le principe du changement
permanent,
repris aussi par Bouddha dans les fondamentaux de sa philosophie. Notre secteur n'est pas en retard.
On n'est pas en retard.
Non, notre secteur est plutôt en avance. Il est vrai que les travaux de la...
Y compris la santé, c'est-à-dire le sanitaire, hôpitaux, cliniques.
Oui, j'allais citer les travaux de la Haute Autorité de Santé. Un peu bousculé par les faits sur le terrain, un peu bousculé aussi par le Covid. Mais notre secteur n'est pas en retard. Il offre beaucoup de créativité et je crois qu'il trouve un écho dans les valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs de sociales, les valeurs de solidarité, de soutien aux plus démunis, ce sont des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour bâtir une démarche qui, cette fois-ci, sera directement liée à l'organisation, à l'amélioration de l'organisation.
Pas particulièrement de résistance, ça vous pouvez l'affirmer, dans le secteur.
Les organisations du secteur sont des organisations de travail comme les autres. Donc elles vivent en effet les réalités psychosociales, des avancées, des résistances au changement, des autoritarismes divers. Mais globalement, elle est plus en avance que d'autres secteurs industriels qui sont peut-être plus fermés à la création de nouveaux modes de dialogue social ou de négociation sociale.
Alors allons-y, comme on travaille bien, le dialogue est là, la démarche est là, systémique. Une petite promenade dans le jazz. Allons du côté de cette belle promenade en écoutant ceci. Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, Jean-Philippe Toutu qui présente son ouvrage « La qualité de vie au travail, une démarche pour le secteur social et médico-social ». Et bien entendu, le sanitaire, il ne faut pas oublier que c'est important, tout ce qui concerne la santé, clinique, les hôpitaux, hôpitaux privés, lucratifs, non lucratifs, tout un secteur. Il faut le rappeler, parce que souvent nos auditeurs, le secteur social et médico-social représente dans notre pays 1 million de salariés, dont la qualité de vie au travail est importante. Si on aborde la méthodologie, Monsieur Jean-Philippe Toutu, méthode systémique, mais il y a une méthodologie, il y a donc des méthodes qu'il faut mettre en œuvre et des choses qu'il faut bien faire et des choses en tout cas qu'il faut éviter. Il y a peut-être des groupes de travail à monter. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les conseils méthodologiques que vous donnez à un établissement, directeur, directrice, ou à une association, à son directeur général, à sa directrice générale, pour réussir pour l'ensemble de ces établissements cette démarche de la QVT?
Volontiers. Il y a d'abord à ne pas se tromper sur la définition que l'on donne à la QVT, ne pas la mélanger avec autre chose, bonheur au travail, satisfaction, etc. Il y a ensuite le cadre réglementaire qu'on vient de rappeler et qui est assez strict, assez bien délimité, et dans lequel il faut se situer. Et ensuite, la QVT est une démarche projet qu'il faut donc dérouler selon un certain nombre de règles méthodologiques, qui sont les règles d'une gestion de projet.
Sur le temps et la temporalité, je démarre une QVT, qualité de vie au travail, en janvier 2022. Symboliquement, je m'engage. Pour aboutir, c'est combien? 6 mois? 1 an? Est-ce que c'est un gros travail pour les équipes? Est-ce que c'est encore beaucoup d'investissements? Vous savez, indépendamment de la situation que nous vivons du Covid, tout le monde est fatigué, ou alors est-ce que c'est une activité, pour te dire, foraine? Je prends ça à la légère. Non, j'imagine que vous allez me dire non, mais quand même, je voulais vous entendre.
Oui, non, c'est une démarche profonde, sérieuse, et qui vise à une transformation réelle du travail et de l'organisation. Donc c'est à prendre très au sérieux. Cela dit, ça n'est pas une usine à gaz non plus qu'il faut monter, et le délai n'est pas forcément très long. Entre point zéro et livraison du plan d'action QVT, il faut compter dans un établissement sans grosses difficultés particulières, il faut compter à peu près 6 mois.
6 mois d'activité.
6 mois. Et les 6 mois, je vous les décris assez rapidement en grande ligne. Mmh. 2 mois consacrés à l'ingénierie, c'est-à-dire à la coordination des partenaires sociaux sur la démarche qu'ils vont mener ensemble avec le management. Il y a peut-être à la clé un accord de méthode, mais 2 à 3 mois. Il y a ensuite 2 à 3 mois qui seront consacrés au diagnostic. Ne pas oublier que le diagnostic QVT est fondamental. Il n'est pas négociable. Dans les textes, il faut toujours un diagnostic spécifique. Ce diagnostic, il peut prendre 2 mois. Il n'a pas nécessairement besoin d'en avoir beaucoup plus.
Pour faire un diagnostic, vous préconisez quoi? Des enquêtes, des questionnaires, des entretiens
Voilà, et les 2 derniers mois pour terminer sur les 6 mois, c'est l'écriture d'un plan d'action, le lancement et la mise en œuvre du plan d'action qui va ensuite se dérouler sur 2 à 3 ans. Pour ce qui concerne le diagnostic, nous avons une boîte à outils classique de 6 outils qui peuvent être mis en œuvre pour le diagnostic. Très souvent, c'est un questionnaire pour faire court. 80% aujourd'hui des démarches QVT sont basées sur un questionnaire au personnel, un questionnaire toujours sur mesure, établi avec le comité de pilotage initial, et puis des entretiens individuels ou des groupes de discussion qui peuvent venir à l'appui du diagnostic questionnaire pour apporter du qualitatif supplémentaire. Je préconise une démarche orale, une démarche écrite, c'est-à-dire questionnaire et entretien ou espace de discussion sur le travail, sur 2 mois qui vont nous permettre d'avoir les données nécessaires pour bâtir, en 3e phase, le plan d'action.
Les partenaires sociaux, pour être très précis, les syndicats, suivent-ils cette démarche? Sont-ils actifs? Ils sont sur la réserve? Ils considèrent que c'est encore un truc du patronat, comme on dit, ou des dirigeants? Ou il y a vraiment une envie de réussir, de travailler ensemble?
Alors, la vérité m'oblige à dire que c'est complexe. On ne peut pas dire que les partenaires sociaux sont d'emblée d'accord ou d'emblée opposés. Cela dépend de chaque situation. Mais il en est exactement de même du management. Nous avons aussi des directions qui sont d'emblée partie prenante.
Et parfois réticentes.
Il s'agit, n'oubliez
voire
pas...
Voire même résistantes.
Voire même résistantes de part et d'autre. N'oublions pas qu'il s'agit de remodeler les postures. De changer de position, à la fois quand on est dirigeant ou représentant syndical, pour se retrouver dans une co-élaboration de la transformation organisationnelle. C'est pas facile. Et donc, quelquefois, il y a des résistances. Quand c'est le cas, il ne faut pas forcer, il ne faut pas, surtout pas imposer quoi que ce soit à quiconque. Il faut parler, il faut mettre en place du dialogue et quelquefois des étapes préalables avant le lancement de la QVT pour qu'elle soit réussie.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut soutenir l'ANACT. Peut soutenir et aider les établissements qui souhaitent se lancer dans cette démarche. Vous préconisez également cette rencontre avec l'agence. Alors, vous êtes, pourrait-on dire, plus rétif en disant « Allez-y, lancez-le tout seul, vous avez la possibilité de négocier, vous avez cette capacité de négociation avec vos partenaires sociaux dans cette démarche participative. »
Disons les choses comme elles sont. En région, les ARACT, qui sont des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, sont les partenaires institutionnels désignés comme tels pour accompagner les démarches QVT. L'ANACT, Agence nationale, et les ARACT, associations régionales, produisent toute une documentation abondante que l'on peut trouver sur leur site pour faciliter, aider les démarches QVT. Dans leur rôle de service public, elles ont aussi comme mission d'accompagner les démarches QVT lorsqu'elles le peuvent, lorsqu'elles en ont le temps et en fonction des cahiers des charges qui leur sont fournis. Mais leur vocation première n'est pas celle d'un cabinet conseil d'accompagnement, c'est plutôt une action de sensibilisation de l'ensemble des partenaires sociaux et des systèmes sur l'intérêt d'une amélioration des conditions de travail.
Une démarche de 6 mois, comme vous l'avez décrite, c'est important. Ça coûte combien ? Parce qu'un directeur ou une directrice va de suite vous demander, c'est encore du boulot, c'est des heures de réunion qu'il faut financer, c'est peut-être des activités futures, c'est une négociation particulière dans la qualité de vie au travail pour lâcher, comme on dit pudiquement, lâcher encore des conditions particulières pour les salariés. En moyenne, vous qui avez l'habitude de négocier cela, ça coûte combien une démarche qualité pour une association ? Allez, on dit en moyenne 200, 300, jusqu'à 1000 salariés.
Il y a des réponses très précises que je peux vous fournir, mais après, il faudra l'adapter à chaque situation. Là. Si par exemple, dans votre association, vous avez une personne qui est déjà formée à la QVT, elle va pouvoir en interne faire gagner beaucoup de temps.
Et déployer rapidement la méthodologie.
En termes d'occupation de temps, la première phase, qui est celle de l'ingénierie, ça va représenter peut-être 3-4 réunions d'un comité de pilotage. Quand je dis une réunion, c'est 2 heures. D'accord. La phase de diagnostic est celle qui est la plus technique. Je préconise quand même de s'appuyer sur des compétences techniques fortes, en interne ou en externe. C'est là qu'un accompagnement externe est peut-être le plus intéressant pour les phases de diagnostic. Quant à la mise en place, l'écriture et la mise en place du plan d'action QVT qui suit, c'est à nouveau 3-4 réunions. Donc les principaux investissements ont lieu pendant ces 6 mois. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, 3 ans dit l'ANI maximum, il y a un suivi à opérer à raison d'une réunion tous les 3 mois. Donc il y a un investissement de temps, mais il n'est pas quand même excessif ou déraisonnable. C'est de cet ordre-là.
On peut dire quand même, si on donne un chiffre, pour ceux qui sont habitués à manier l'ordre de grandeur, une opération pour une association des milliers de salariés dans le secteur, association moyenne, serait de l'ordre pour déployer dans l'ensemble des établissements autour de 30 000, voire 50 000 euros maximum pour l'ensemble des établissements. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ?
Ça dépend si à l'intérieur de ce chiffre, vous y mettez les dépenses internes ou si vous y rajoutez l'appui d'expertise externe.
Interne et externe. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ?
Le chiffre que vous indiquez me paraît tout à fait raisonnable.
Raisonnable. Tout voilà, à fait c'est raisonnable. Une fourchette, bien oui, entendu, oui, oui. Quand on regarde le travail qu'il y a à oui, faire dans, oui, le, dans oui, le secteur,
oui, parce que
les dans difficultés plus, dans plus les établissements.
Plus l'association est importante, plus elle peut mutualiser des étapes, n'est-ce
bien
pas ?
Bien sûr.
Donc on est dans l'enveloppe est, que vous voilà, décrivez.
La fourchette semble assez juste. Une autre question sur cette démarche donc, de la qualité de vie au travail. Dans votre ouvrage, vous donnez quelques exemples précis d'institutions. Oui. Bien entendu, tout cela est anonyme, cela va de soi. Mais vous présentez des cas d'école. Et c'est important de revenir sur un deux cas d'école. Vous citez un ITEP, un institut pédagogique et thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous raconter une belle histoire qui se conclut peut-être très très bien sur la mise en œuvre d'une bonne démarche de qualité de vie au travail?
Oh, oui, oui. Mon équipe et moi-même, nous avons accompagné, nous accompagnons à peu près 250 aujourd'hui, ou 250 à 300 accords QVT, dont d'une partie sont des associations multi-établissements. Alors, vous me parlez de NITEP. Oui, je peux vous citer, je pense, un NITEP que nous avons accompagné.
Que vous avez accompagné.
En région Aquitaine. C'est une démarche qui a suivi le descriptif, le modèle que je vous indiquais. Constitution au départ d'un comité de pilotage. Il y a eu une discussion assez sévère, sérieuse, sans langue de bois, d'abord entre la direction de l'établissement et le délégué syndical CGT, où chacun a bien défendu ses positions et chacun a accepté de bouger vers l'autre à condition que l'autre bouge vers lui. Vous voyez ? Donc ça, c'est le prototype d'une négociation, moyennant quoi le principe de la QVT a été adopté. Autour de ces partenaires sociaux, un petit groupe de pilotage s'est constitué. Disons que trois forces, si vous voulez, direction, représentants du personnel et éléments techniques. Et ensemble, ils ont construit les bases du diagnostic qui s'est effectué sous forme de questionnaire auprès du personnel, une cinquantaine de personnes, de professionnels. 75% de réponses à ce questionnaire, plus des entretiens individuels, 5-6 entretiens individuels qui ont apporté quelques éléments complémentaires. Il en est ressorti une grande richesse, une quarantaine de propositions d'action, parce que ce que l'on cherche à faire avec la QVT, c'est à mettre en œuvre des actions concrètes, et non pas des intentionnalités, mais des choses concrètes. Sur ces 35 actions qui en sont sorties, le comité de pilotage a sélectionné 13 actions. Alors on peut penser que ce n'est pas beaucoup, mais ces 13 actions sont des actions très concrètes de terrain, telles que la modification des plannings, par exemple, ou telles que la mise en place de covoiturage ou de circuits.
Alors justement, page 133, vous rentrez dans le détail, monsieur Jean-Philippe Poutoutou, vous dites « voilà l'illustration d'une sélection d'actions ». Alors quand vous avez dit méthodologie, démarche systémique, méthodologie et actions concrètes, page 133, vous dites « illustration d'une sélection d'actions à mener » en fonction d'une cotation établie par le comité de pilotage. Donc vous voyez bien que c'est une action très concrète, participative. Vous dites, oui, améliorer les plannings fait partie de la qualité de vie au travail. Changer les horaires ou aller les adapter. Modifier les bureaux ou l'ordonnancement des bureaux. Créer une salle de repos. La modulation annuelle. Faciliter l'accès. Former les veilleurs de nuit, on pourrait dire former les maîtresses de maison, plus de formation, meilleures compétences, plus facile pour aborder, améliorer le circuit d'information, des fiches d'accueil, etc., etc. Donc j'imagine que l'on peut lister très concrètement pour que les acteurs s'y retrouvent. C'est cela le sens des actions concrètes.
J'ai horreur, et la QVT aussi a horreur, des déclarations d'intention qui ne sont pas suivies de transformations réelles sur le concret, sur le terrain. Donc on cherchera toujours, en matière de QVT, à poser des actions que l'on va pouvoir délimiter dans le temps et évaluer. Le principe de l'évaluation est très important dans les actions que l'on met en œuvre. Cela dit, l'ANI liste, dans son article 2, 10 domaines qui constituent les terrains sur lesquels la QVT peut s'exprimer. Et ces domaines sont considérables. À part la négociation salariale pure, tous les domaines du fonctionnement institutionnel peuvent être travaillés et améliorés par la démarche QVT. Mais après la consultation du personnel sous forme de questionnaire et de diagnostic, on aboutit à des actions concrètes qu'il faut définir par le menu, dans le détail, pour être sûr qu'ensuite ça soit mis en œuvre.
On dit toujours dans notre secteur, mais partout ailleurs, que le diable est dans le détail. Là, dans la QVT, en effet, il est dans le détail. Une action concrète doit être également évaluée pour comprendre ou en tout cas imaginer qu'il y a un impact. Moins d'arrêts maladie, ça c'est important, c'est un bon indicateur. Moins d'inaptitude, c'est un bon indicateur. Des salariés en bonne santé, pas de burn-out, c'est un bon indicateur. C'est bien ces thèmes-là que vous ciblez.
Oui, ce sont les cibles de la QVT. Mais imaginez, ce que cherche à faire la QVT, c'est améliorer le bien-être des salariés qui viennent travailler dans un meilleur état d'esprit, qui sont mieux dans leur être, qui s'épanouissent dans le travail. Ils produisent donc du travail de meilleure qualité. Donc, en amont et en aval, nous avons une amélioration globale. Mais pour obtenir ce résultat, il faut une grande rigueur méthodologique. Vous le disiez tout à l'heure, je suis, enfin, lorsque j'interviens, intraitable sur le fait que chaque action doit être délimitée dans le temps, qu'on puisse en tirer une évaluation à 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qu'on puisse en faire une évaluation, l'améliorer s'il le faut, l'abandonner si c'est un échec, mais en tout cas, on doit pouvoir évaluer l'avancée obtenue par chacune des actions que l'on pose.
Monsieur Jean-Philippe Toutu, est-ce que vous aimez l'opéra ?
Beaucoup.
Alors je vous propose d'écouter Granada par un ténor formidable, Carreras.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía.
C'est formidable, Granada, quelle civilisation, un clin d'œil, c'est pas le repli, hein. C'est une civilisation où on trouvait, n'est-ce pas, les Arabes, les Juifs et les chrétiens, et qui nous ont transmis, petit clin d'œil, bien entendu, toute cette civilisation et les grands penseurs de l'Antiquité, faut-il le rappeler. Toujours esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, la qualité de vie au travail, une démarche pour le secteur social, médico-social et sanitaire avec Jean-Philippe Tutu. Un très bel ouvrage, très belle maison d'édition, très actif dans le secteur social et médico-social. Vous avez dit, monsieur Jean-Philippe Tutu, que vous suivez à peu près 250 institutions, associations, établissements dans la démarche QVT. Avez-vous eu des insuccès? Avez-vous eu des moments difficiles ou d'arrêt de la démarche parce que les acteurs ou partenaires ne se sont pas compris? Y a eu-t-il des tensions dans une démarche de la qualité de vie au travail?
Oui, des tensions positives, il y en a souvent. Franchement, je crois qu'on apprend autant de ces échecs ou de ces erreurs que de ces réussites. Mais je n'ai souvenir dans les démarches que nous avons suivies plutôt que de demi-réussites, plutôt que d'échecs à proprement parler. Deux exemples me viennent à l'esprit. Dans un premier cas, une institution a parfaitement déroulé la méthodologie, abouti à un plan d'action, a commencé à mettre en œuvre son plan d'action, et par la suite, le comité de pilotage n'a pas tenu ses engagements de suivi tous les trois mois. Donc quand j'ai fait l'évaluation à la fin de la première année de mise en œuvre du plan d'action, on s'est rendu compte qu'il s'était relâché. Et quand on se relâche dans la maintenance du suivi des actions, eh bien ces actions elles-mêmes, elles peuvent partir un peu dans les marécages ou pas trop être bien définies, et le travail est plus difficile ensuite de reprise en main des actions. Donc il y a une part de l'établissement qui revient à l'établissement de maintenir
cette dynamique. Il faut maintenir une dynamique positive.
Voilà, c'est la même chose qu'on trouve dans les démarches qualité. On est tout le temps en train de mettre du jus pour que les choses avancent. Et là, c'est une situation dans laquelle ça a été plus difficile de remettre un peu de dynamique. Un autre exemple peut-être aussi d'une démarche qui avait été commencée dans un établissement, et on s'est rendu compte juste avant le lancement du diagnostic QVT que, en fait, on avait des indicateurs très mauvais en matière de risques psychosociaux, avec un taux d'absentéisme fort, mais surtout des burn-out, et puis des courriers qui nous sont parvenus indiquant qu'il y avait de la souffrance au travail. Et là, nous avons dû proposer, et on était suivi dans ce sens-là par la direction, d'arrêter la démarche QVT le temps qu'on mette en place un travail de prévention des souffrances. Parce qu'on ne peut pas marcher la tête dans les nuages quand on a un caillou dans son soulier. Donc avant de commencer la démarche QVT, il faut prendre la précaution de voir si toutes les conditions sont remplies. Et là, en l'occurrence, elles n'étaient pas remplies. Il a donc fallu faire un peu marche arrière, prendre le temps de la réparation avant de partir sur le temps de l'amélioration systémique.
Il est sage toujours de réparer avant de lancer. En tout cas, c'est ce que vous avez conseillé. Et comme vous êtes d'un bon conseil pour les établissements, vous enseignez, donc vous êtes le sage dans l'enseignement, pourrait-on dire.
C'est beaucoup dire.
Vous enseignez à l'université Jean Jaurès, et oui, justement dans la formation d'un diplôme spécifique. Si mes sources sont justes, je crois que c'est un des rares diplômes à la formation de la qualité de vie au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, je confirme, vos sources sont excellentes. J'ai créé en 2016... le diplôme universitaire qui s'appelle QVT et à l'université Jean Jaurès, en formation continue. Et chaque année, nous avons donc une promotion de stagiaires qui suivent ce diplôme.
Une cohorte de combien d'étudiants?
Nous limitons à une quinzaine d'étudiants.
Une quinzaine d'étudiants. Oui. Plutôt formation continue ou plutôt formation initiale?
Ce sont quasiment que des stagiaires de la formation continue. Donc d'accord, ce sont des professionnels.
Des professionnels.
Voilà. Sur des champs très divers, hein, ou des statuts très divers, mais ce sont des professionnels en général.
Plutôt jeunes professionnels ou professionnels déjà aguerris. Je vous dis cela parce que la question qui vient ensuite.
Là, vous j'ai du mal à vous répondre parce que ça s'étend sur une palette assez large, d'accord, qui va de 25-30 ans jusqu'à 50-55.
Non, je vous posais cette question. mon cher Jean-Philippe Tutu, parce que je disais, est-ce que la jeune génération est plus ouverte à ce type de démarche que plutôt les anciens? Ça allait dans ce sens. Est-ce qu'on est plus ouvert parce que c'est quelque chose qui nous impacte dans notre métier, ou alors les plus anciens, pourrait-on dire, considèrent que c'est une activité de plus qui vient s'ajouter?
Non, je ne peux pas dire
comme ça.
Je ne peux pas répondre à cette question. L'ouverture d'esprit, la stimulation, l'intérêt pour la nouveauté, pour les démarches de progrès, elles peuvent se manifester chez des personnes d'un certain âge comme des personnes d'un jeune âge. Je ne fais pas trop de distinction.
Il n'y a pas de génisme particulier, ce n'est pas les jeunes d'un côté et les plus anciens de l'autre, non.
Non, ça n'intervient évidemment pas au niveau de notre sélection initiale, mais enfin, par rapport aux stagiaires, nous n'avons pas de différence significative.
Si on décortique rapidement le syllabus, c'est-à-dire le programme, c'est combien d'heures de formation pour ce diplôme universitaire?
C'est un diplôme en 125 heures de cours, plus un mémoire, et ça se répartit sur 8 mois de l'année. Donc en général, on ouvre la promotion en fin septembre, début octobre. Les cours eux-mêmes sont terminés fin février. Puis il y a 2 mois de travail sur le mémoire qui est présenté en avril. 125 heures pour un diplôme de niveau 6, en passe d'être niveau 7, c'est-à-dire reconnu...
Comme master. Vous présentez bien entendu votre démarche qualité de vie au travail et toute votre méthodologie. Mm-hmm. Quelles sont également les activités qui viennent construire, qui donne l'architecture à ce diplôme? J'imagine peut-être un peu de sociologie des organisations, peut-être ou pas des statistiques, peut-être ou pas peut-être de la philosophie, de l'anthropologie. Vous nous dites un peu plus si on essaie de tarauder, comme on dit, et de rentrer dans le détail, comme on a évoqué tout à l'heure.
Volontiers. Ce diplôme, d'abord entièrement consacré exclusivement à la QVT, est le seul du genre en France. Il y a d'autres diplômes QVT, mais toujours associés à
une autre discipline.
À une autre discipline.
D'accord.
Alors, ce diplôme QVT est divisé en 4 unités, 4 blocs de compétences, 4 unités d'enseignement. De la sociologie du travail, pour préciser bien comment s'inscrit la QVT par rapport aux risques psychosociaux, à la qualité et aux théories des organisations. Un deuxième bloc de compétences autour du cadre réglementaire et législatif, et également des positions institutionnelles et syndicales et stratégiques. Le troisième bloc de compétences porte sur la méthodologie exclusivement, la mise en œuvre de la méthodologie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et le quatrième bloc de compétences, ce sont des témoignages, et des témoignages de personnes en activité qui ont engagé la QVT ou qui épousent la philosophie de la QVT. Et on va parler un petit peu de philosophie et d'éthique dans ce quatrième bloc de compétences.
À la fin de votre ouvrage, page 179... On approche, donc très bel ouvrage, hein, plus de 200 pages. Vous parlez de la complexité, vous y revenez sur un auteur qui dans notre secteur marque bien évidemment, et je sais que nous partageons cette communauté de pensée, c'est la notion de complexité, et bien entendu c'est les travaux d'Elgar Morin sur la complexité, la mise en œuvre de cette pensée complexe dans le secteur. La QVT fait partie, en effet, de cette pensée complexe. On ne peut pas penser une QVT sans décortiquer et sans penser la complexité. Cela veut dire qu'il faut un esprit particulier, alors que notre formation initiale est très cartésienne, vous le savez. On nous dit qu'il faut découper le problème, on nous dit qu'il faut segmenter, comme disent certains dans le marketing, segmenter, segmenter, il en restera toujours quelque chose. Alors que vous et moi sommes des enfants de la complexité, en tout cas des enfants intellectuels de ce grand penseur Elgar Morin. Comment amener la complexité et comment amener la pensée complexe pour l'ensemble de nos professionnels?
Déjà, bien distinguer la complexité de la complication. Hein, nous sommes aux antipodes, là. La complexité n'est pas quelque chose de compliqué. La complexité met en relation, elle part du principe qu'une chose n'a de sens que par rapport à une autre. Alors, de façon très concrète, lorsqu'on parle de co-construction, eh bien ça signifie qu'on met en relation différents acteurs du système pour qu'ensemble, ils fabriquent quelque chose de nouveau qui ne serait pas apparu par le simple génie individuel. Donc nous sommes là tous dans une définition très simple de la complexité, qui est qu'on travaille à partir des interactions pour fabriquer quelque chose de nouveau qui, sans elle, sans ces interactions, ne serait pas
interaction
arrivé.
Et ou articulation, ou les deux, parce que c'est important, la différence d'appréciation entre l'articulation et l'interaction. Ou est-ce que c'est la même chose pour vous ?
L'objectif dans la démarche QVT, c'est de fabriquer ensemble quelque chose qui n'est pas prédéfini au départ et dans lequel chacun va trouver une sublimation de sa propre position sans l'avoir perdue. C'est-à-dire que dans la co-construction, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il y a quelque chose de plus qui apparaît aux yeux de l'un et de l'autre dans une définition nouvelle. Exactement comme quand on a un silex et une pyrite qui vont se frotter pour créer une étincelle nouvelle. Cette étincelle ne pouvait pas être fabriquée que par le silex ou que par la pyrite. Donc il s'agit de fabriquer ensemble cette interaction, crée une nouvelle réalité.
Vous le dites dans votre ouvrage que 1 plus 1, selon la pensée complexe d'Edgar Morin, 1 plus 1 égale peut-être 3. Et vous affirmez ça très clairement. Comment pouvez-vous affirmer cela ? Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre. Pourquoi 1 plus 1 égale 3 dans la pensée complexe ?
Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Quand je fais un cours, quand je donne un cours à l'université, je dis toujours à mes étudiants, je n'ai pas la connaissance. J'ai de l'information. Je vous apporte l'information et ensuite, ensemble, nous allons fabriquer de la connaissance. Et nous avons réussi quand je finis mon cours, quand je pars de mon cours en me disant j'ai appris quelque chose de nouveau. Alors bien sûr que les étudiants ont appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils ont fabriqué quelque chose à partir de l'information que j'ai apportée. Il n'y a pas de connaissance qui ne soit interactionnelle.
On est bien dans une démarche de la modération. Je crois qu'Étienne Klein, grand épistémologue, nous dit très clairement que les hommes qui sont nuancés, et il y a un très bel ouvrage, un plaidoyer pour la nuance, les gens de la nuance et les modérés doivent prendre la parole de façon immodérée. C'est peut-être cela qu'il faut dans la QVT, c'est de la modération pour améliorer la vie de l'ensemble des acteurs.
Oui, je suis un grand lecteur d'Étienne Klein, mais aussi de Spinoza, par exemple, et de Bouddha, lorsqu'il parle de la voie du milieu. Attention, la voie de la modération n'est pas la voie de la tiédeur. On a trop confondu cela, et dans les démocraties un peu faibles que nous vivons aujourd'hui, il est bon de le rappeler. La voie du milieu, la voie de la modération, n'est pas une voie de la tiédeur. C'est une voie de la recherche de consensus et du vivre ensemble. Ça n'est jamais facile. Mais il faut y arriver, c'est le seul projet humain sur cette terre.
Jean-Philippe Toutu, merci. Une heure, ça passe très vite, la qualité de vie au travail. Merci de votre apport intellectuel, de votre contribution, la qualité de vie au travail, une démarche pour le secteur social, médico-social et sanitaire. Des conférences sont prévues dès le mois de janvier pour présenter votre ouvrage et peut-être dédicacé aux acteurs qui souhaitent bien entendu l'acheter pour la modique somme de 23 € et quelques. Bien entendu, on trouve l'ouvrage dans toutes les bonnes librairies toulousaines.
Oui, comme vous dites, les bonnes librairies.
Les bonnes librairies
aussi
toulousaines.
Les grandes librairies dont on taira le nom, mais qui sont
donc nous,
de grandes divisions.
Nous, on peut envoyer l'ensemble des futurs lecteurs à ce livre de référence. Un livre que nous devons avoir, directeur et directrice, sur notre bureau pour préparer cette rentrée 2022 avec une belle qualité de vie au travail et des améliorations dans notre secteur. Jean-Philippe Toutu, merci pour votre contribution.
Merci de votre accueil.